L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, on verra que les Belges ne savent pas quoi faire d'une épave de sous-marin vieux de 100 ans. En Suisse, on fera connaissance avec le nouveau conseiller fédéral, un homme qui risque de tirer le gouvernement vers sa droite. Au programme également, une polémique autour des passeports en République démocratique du Congo et une autre polémique au Québec sur les soins apportés aux personnes âgées. Et puis en France, on parlera de la vente annoncée de l'immeuble du siège du Parti Socialiste. Voilà pour l'actualité francophone à venir. Bienvenue à tous. On part donc au large des côtes belges à Ninameus avec ce sous-marin vieux de 100 ans. Il a été découvert et l'épave a encore beaucoup de secrets à livrer. Hein.
Oui, c'est un sous-marin allemand. Il a dû sombrer en 1917 ou 1918. 27 mètres de long, 6 mètres de large, une tourelle, des torpilles qui sont encore dans leur compartiment. Ce sous-marin est presque intact. D'après les premières observations, les écoutilles n'ont pas été ouvertes. Ça veut dire que l'équipage n'a pas pu être secouru. Il y a probablement encore à l'intérieur les corps des 22 membres d'équipage et du commandant de bord. La découverte est exceptionnelle. Les Allemands ont produit environ 300 sous-marins pendant la Première Guerre mondiale, mais la plupart de ces requins des mers ont été détruits ou se sont sabordés.
Et c'est donc le passé qui ressurgit. Mais Anina, quel sera l'avenir de cette épave de sous-marin ?
Eh bien, on va d'abord devoir identifier le bateau, identifier aussi l'équipage, peut-être entrer à l'intérieur de l'appareil, ce n'est pas encore dit. Les autorités allemandes auront leur mot à dire, les familles des marins aussi. Le plus probable, le plus facile aussi, ce serait de laisser reposer l'épave et donc ses occupants au fond de l'eau. C'est ce que recommande en général l'UNESCO dans pareil cas, dans un souci de préservation. Le U-boat pourrait alors devenir une curiosité pour les plongeurs amateurs. Pourrait, car pour l'instant, la localisation exacte du sous-marin n'a pas été dévoilée.
Pierre Anchoffa, à la Suisse avec vous, avec l'arrivée d'un nouveau membre du gouvernement qui pourrait bien modifier l'équilibre actuel et entraîner le collège des 7 ministres un peu plus à droite.
Oui, en effet, depuis l'élection mercredi du Tessinois Ignacio Cassis, la minorité de gauche s'inquiète. Sous sa présidence, le groupe libéral radical en effet adopté des positions plus tranchées en matière fiscale et sur la politique sociale. Son parti, le PLR, combat par exemple avec fougue la réforme des retraites sur laquelle les citoyens doivent trancher ce dimanche. Sous son impulsion, le parti se montre moins prêt au compromis.
Et pourtant, Pierre-An, Ignacio Cassis va bien remplacer au gouvernement un autre libéral.
C'est vrai, mais Didier Burkhalter était un vrai centriste. Et dans ce collège où les principales forces politiques sont représentées, il appuyait à l'occasion ses collègues socialistes et démocrates chrétiens. Or, Ignacio Cassis a donné des gages aux nationaux conservateurs de l'UDC lors des auditions pour les plus grands espoirs de l'un de ses représentants alémaniques, Lutzistam.
J'espère qu'il va tenir ses promesses en ce qui concerne nos rapports envers l'Union européenne et surtout dans l'immigration. Inutile de dire que pour nous, c'est beaucoup mieux si nous avons un gouvernement bourgeois. Alors je veux voir les résultats maintenant.
Une vraie politique bourgeoise, une droitisation de l'action gouvernementale, c'est bien ce que craint le socialiste Jean-Christophe Schwab.
Le fait d'avoir quelqu'un qui amène une sensibilité plus ultralibérale, plus à droite, eh bien cela aura un impact sur les décisions du collège. Ça n'est qu'un sur sept, mais un sur sept, c'est déjà beaucoup.
Ignacio Cassis prendra ses fonctions aux affaires étrangères le 1er novembre. Le système gouvernemental le conduira forcément à nouer davantage de compromis que lorsqu'il était à la tête de son groupe, mais un léger glissement à droite est vraisemblable. Léger comme savent l'être les bouleversements politiques en Suisse.
En République démocratique du Congo, Charlotte Hydrak, voilà cette affaire de passeport maintenant, le passeport gate.
Oui, c'est comme cela que certains qualifient la polémique après l'annonce du gouvernement qui a pris tout le monde de court. Dans moins d'un mois, le 16 octobre, les passeports semi-biométriques ne seront plus valides, quelle que soit la date d'expiration. Il ne sera plus possible d'entrer ou de sortir du pays avec. Ces documents avaient pourtant été émis récemment, en 2015, mais il faut désormais passer au biométrique.
Alors, les autorités de RDC avance des raisons de sécurité, de fiabilité, de normes internationales, mais ça n'empêche pas le tollé. Hein.
Oui, avec des désaccords, y compris au sein de la majorité présidentielle, et la colère dans l'opinion, il y a eu des manifestations, des banderoles, touche pas à mon passeport, une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Alors que le climat politique est déjà électrique en RDC, à quelques mois d'une élection présidentielle prévue en principe en décembre, mais qui sera très probablement de nouveau reportée.
Ça veut dire qu'on veut empêcher demander à l'opposition de s'organiser de manière à porter une offensive claire au pouvoir en place. Parce qu'ils n'auront pas de possibilité de s'organiser en étant en dehors du pays, de revenir avec leurs passeports qui sont les leurs. Ceux qui sont dans le pays, ils vont sortir avec quel passeport?
Mais moi, je pense que c'est une grosse escroquerie de la classe dirigeante envers son peuple.
L'incompréhension donc, alors que le passeport congolais est déjà l'un des plus chers du monde, 195 $.
Au Québec maintenant, les résidents des centres hospitaliers de soins de longue durée ont reçu une bonne nouvelle cette semaine. Ils auront droit désormais à un deuxième bain chaque semaine, car jusqu'à maintenant, on va préciser qu'ils n'avaient droit qu'à un seul bain hebdomadaire. Benoît Audet, c'est un sujet qui a souvent soulevé la controverse chez vous au Québec.
Oui, imaginez-vous, ce sont des gens vulnérables, en majorité des personnes âgées. Elles devaient se contenter d'un seul bain par semaine. Le gouvernement, après avoir été la cible de toutes les critiques, a finalement décidé d'investir 36 millions de dollars pour offrir un deuxième bain. Voici le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette.
La question du deuxième bain, c'est une question qui est tout à fait légitime, pour laquelle j'ai toujours dit deux choses. La première, les soins d'hygiène sont donnés correctement au Québec. Mais oui, s'il y avait de la marge de manœuvre, j'ai toujours dit que ça coûtait des sous, on l'a là. Alors, on répond à la population.
Et malgré tout, Benoît Audet, cette nouvelle n'a pas fait que des heureux.
Non, les gens qui sont en première ligne, qui donnent les soins aux malades, croient que ça relève presque de la pensée magique. Ces travailleurs se disent déjà débordés. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. C'est un travail difficile et il faudra voir si effectivement on sera en mesure de remplir cette promesse.
Et au Québec, il semble qu'il n'y ait pas seulement une pénurie de personnes qui donnent les soins de base?
Non, le jour même de l'annonce, on apprenait qu'il y avait aussi une pénurie de médecins dans le réseau des centres hospitaliers de soins de longue durée. Il semble que ce soit le résultat d'une réforme menée par le gouvernement du Québec. En gros, les médecins ont l'obligation de voir plus de patients en cabinet, ce qui leur laisse moins de temps pour ceux qui sont hospitalisés. Alors, rien n'est simple dans le système québécois de la santé et encore une fois, ce sont les plus vulnérables qui se retrouvent au centre de l'actualité.
À Paris, à vendre, bel hôtel particulier, 3000 mètres carrés dans les quartiers chics de la capitale française. C'est le siège historique du Parti Socialiste, rue de Solferino, qui est mis en vente. Après la déroute des socialistes aux législatives, le PS a des problèmes de trésorerie. Le prix de vente de cet immeuble est estimé autour de 50 millions d'euros. De quoi renflouer un peu les caisses d'un Parti Socialiste qui a donc vu ses aides publiques fondre comme neige au soleil en même temps que ses échecs électoraux successifs. Le Parti Socialiste s'était installé dans cet immeuble en 1980, c'est-à-dire quelques mois seulement avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Et c'était donc dans cet hôtel de la rue de Solferino que les partisans socialistes avaient commencé à fêter la victoire de François Mitterrand le 10 mai 81. Écoutez cette archive du journal télévisé français, Jean-Marie Cavada, en 1981, sur le plateau de la soirée électorale de TF1.
Oui. Dans un tout petit instant, si vous me permettez, la rue de Solferino, je suis désolé, la rue de Solferino, le quartier général du Parti Socialiste en ligne.
Oui, bien écoutez, ici c'est tout à fait simple. Vous parliez tout à l'heure de liesse. Ben, c'est effectivement une ambiance de liesse qui règne ici. Il y a de plus en plus de monde. Je dirais que la chaleur est également tout à fait tropicale. Et le buffet qui est devant moi a failli s'effondrer tout à l'heure à l'arrivée de Michel Rocard. Et je pense qu'après cette ambiance de fête ici, eh bien, la plupart de ceux qui sont là iront tout à l'heure fêter la victoire de François Mitterrand, place de la Bastille.
Voilà, et aujourd'hui, les socialistes ont prévenu, pas question de vendre cet hôtel de la rue de Solferino chargé d'histoire à n'importe qui, et certainement pas au Front National, le parti d'extrême droite en France qui, lui aussi, cherche de nouveaux locaux. La vente de cet hôtel rue de Solferino devrait être suivie d'un plan social chez les socialistes. Ça concerne plus des deux tiers des salariés du Parti Socialiste. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la semaine francophone. Merci à tous les quatre. Le prochain rendez-vous, ce sera dans une semaine, au même endroit et à la même heure.